18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Nous avons mis en œuvre de nombreuses mesures pour ralentir cette seconde vague. Mais comme partout en Europe, elle nous touche aujourd'hui très fortement et nous devons tout faire pour qu'elle ne nous submerge pas.
20h ce soir, l'heure des mauvaises nouvelles. Emmanuel Macron devrait donc annoncer aux Français un nouveau confinement.
Oui, sans doute allégé par rapport au printemps, avec un peu plus de souplesse, mais des conséquences redoutées pour l'économie.
Le premier confinement avait fait plonger l'activité de 30%. Les entreprises placées sous perfusion lors de la première vague craignent cette fois de ne pas résister.
Et contrairement à la première vague, c'est la différence, les écoles devraient rester ouvertes cette fois.
Les écoles et les collèges, mais pour les lycées, ça annonce un peu plus compliqué.
Alors, quels commerces concrètement seront-ils autorisés à rester ouverts? Là aussi, c'est un casse-tête. Emmanuel Macron, qui peaufine son discours, doit trancher.
Et sans attendre, les Français, au cas où, ont pris rendez-vous en nombre aujourd'hui chez leur coiffeur.
L'actualité également ce soir, c'est le procès des Gilets jaunes qui s'était introduit dans le ministère, souvenez-vous, de Benjamin Griveaux avec un chariot élévateur.
Et puis la Ligue des champions de foot, le PSG joue à Istanbul à l'heure où les tensions n'ont jamais été aussi vives entre la France et la Turquie. On demandera à notre envoyé spécial quelle est l'ambiance ce soir autour du stade. La Bourse de Paris, elle, est très inquiète de la perspective d'un nouveau confinement. Elle termine ce soir en très forte baisse, c'est même un plongeon, hein, moins 3,37% à 4571 points.
Et puis la tendance météo, on pensait, Anissa, bonsoir, que vous alliez nous annoncer quelques bonnes nouvelles dans ce climat morose. Eh bien non, c'est raté, un département en vigilance ce soir.
Oui, il s'agit du Pas-de-Calais, Julien, qui est toujours en vigilance orange pour forte pluie. Demain, le temps sera plus agréable au sud. Dans le nord, ça reste encore gris et nuageux. Le beau temps arrive pour ce week-end. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La France sera prête en cas de deuxième vague, disait Emmanuel Macron. Il faut vivre avec le virus. Le retour des jours heureux, promettait le chef de l'État. Mais ça, c'était début juin.
Oui, c'est raté. Aujourd'hui, face à cette seconde vague ou cette deuxième vague, s'il y en a une troisième, qui déferle plus vite encore que la première, le président s'apprête donc à prendre de nouveau la parole. Intervention que nous suivrons donc en direct sur Europe 1 à 20h. Édition spéciale jusqu'à 21h, vous l'avez compris.
Et Adrien Beck, les choses se confirment, se précisent. On va bien vers un reconfinement pour tout le pays.
Oui, un confinement qui devrait beaucoup finalement ressembler à celui que nous avons connu au mois de mars. Selon nos dernières informations, il y aura tout de même un peu plus d'exceptions. Vous parlez de souplesse, elle sera toute relative. Écoles, collèges seront maintenus ouverts. Les lycées peut-être aussi, mais reste à en définir, à en connaître les modalités, tout comme certains services publics de proximité. Autant de sujets dont les détails sont encore en ce moment même en cours d'arbitrage. L'idée d'Emmanuel Macron, c'est aussi que le maximum de Français puissent continuer à travailler, y compris ceux qui ne peuvent pas être en télétravail. Un des sujets déjà arbitrés, en revanche, selon nos informations, Gérald Darmanin réunit en ce moment même en visioconférence les représentants des cultes pour leur annoncer trois décisions. Églises, mosquées, synagogues resteront ouverts au public, mais avec une jauge. Les obsèques restent possibles, mais ni les messes, ni les cultes.
Adrien, on est à moins de 2 heures maintenant de cette intervention. Emmanuel Macron, on le sait, joue gros, politiquement bien sûr. Il sait que les annonces de ce soir seront forcément impopulaires. Comment se prépare-t-il?
Alors, comme il aime le faire, Emmanuel Macron consulte beaucoup cet après-midi encore. Il a appelé des représentants du monde économique, même si sa décision, il l'a en réalité déjà prise depuis le début de la semaine. Son état d'esprit, la gravité, disent ceux qui l'ont vu ces dernières heures. Je ne l'ai jamais vu dans un état pareil, confie un interlocuteur. Il prépare, il peaufine sa prise de parole qui devrait durer ce soir une demi-heure avec plusieurs axes. D'abord, montrer que l'exécutif avait anticipé cette deuxième vague et surtout tenter d'être en empathie avec les Français, montrer qu'il comprend la lassitude que peut provoquer ce deuxième confinement. Preuve que le chef de l'État sait bien que ces mesures seront plus difficiles à accepter que le confinement du mois de mars.
Merci Adrien Beck du service politique Europe 1.
Alors vous le disiez, ce confinement sera un peu moins strict que le précédent. Il y aura des dérogations.
On sait que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a tapé du poing sur la table pour défendre en particulier les commerçants qui avaient énormément souffert au printemps.
A-t-il été entendu? On verra ça tout à l'heure à 20h. En tout cas aujourd'hui, avec l'expérience, on est capable d'évaluer, Olivier Samain, les conséquences économiques d'un nouveau confinement.
Oui, il suffit de rappeler qu'au printemps, l'activité économique avait plongé en moyenne de 30% chaque semaine entre la mi-mars et la mi-mai. Le recul sera peut-être moins important cette fois-ci du fait des dérogations, du fait aussi que beaucoup d'entreprises se sont forgées une expérience avec ce qu'elles ont vécu au printemps. Mais dans le sens opposé, on peut rappeler que beaucoup d'entreprises sont sorties fragilisées du premier confinement, et que le nouveau choc risque de leur porter un coup fatal. Le président de la CPME, François Asselin, qui était ce matin sur Europe 1, s'inquiétait notamment pour les commerces non alimentaires.
On approche des fêtes de Noël. Imaginez que nous soyons confinés. Les magasins alimentaires vont rester ouverts. Tous les autres magasins qui ne sont pas de première nécessité fermeraient. Je parle au conditionnel. Donc, si nous devions en arriver là, ce que je ne souhaite absolument pas, eh bien, il faut que le gouvernement aille jusqu'au bout sur les mesures de soutien.
Alors, il y a déjà une mesure de soutien qui est actée. La prise en charge par l'État du chômage partiel ne va pas être réduite, comme c'était prévu, à compter du 1er novembre. Elisabeth Borne a annoncé hier soir qu'elle va être maintenue à son niveau actuel, au moins jusqu'au 31 décembre.
Merci Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
On a évoqué tout à l'heure la question des établissements scolaires. Là aussi, on attend donc les arbitrages définitifs du chef de l'État. Mais a priori, les enfants vont pouvoir retourner en classe lundi, après donc les vacances de la Toussaint.
Alors, des écoles ouvertes, Virginie Salmen, contrairement au printemps. Donc, là aussi, c'était compliqué, hein, Virginie, de reproduire le scénario du premier confinement.
Oui, difficile d'imaginer de déscolariser à nouveau des millions d'élèves à ce stade de l'année scolaire, à peine deux mois après la rentrée. Alors, l'hypothèse qui tient la corde et qui pourrait permettre aux élèves d'aller en classe, c'est le port du masque dès l'école élémentaire à partir du CP, donc 5-6 ans. Les collèges devraient rester aussi ouverts. La décision la plus compliquée à prendre semble être pour le lycée, où les grands élèves de 15 à 18 ans sont potentiellement aussi contagieux que les adultes, selon les médecins. Mais il va falloir penser aux élèves de terminale qui passent le bac à la fin de l'année, plaide Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES. Pour elle, il y a deux solutions.
La première, ça serait d'aménager les programmes, de les rendre un peu plus faisables. Et la deuxième solution, c'est de reporter les épreuves de bac qui sont prévues en janvier et en mars, de les reporter au mois de juin. Ça permet de desserrer un peu la pression de l'évaluation, de se laisser un peu plus de temps pour que les élèves soient vraiment prêts pour des épreuves qui sont quand même très importantes.
Voilà, alléger les programmes de terminale ou reporter les épreuves anticipées du bac pour s'adapter à cette année particulière.
Merci Virginie Salmen. On parlait il y a quelques instants des conséquences dramatiques d'un probable reconfinement sur notre économie. Les restaurateurs, les commerçants, les professionnels de la culture et bien d'autres vont donc écouter avec attention Emmanuel Macron ce soir sur Europe 1. Les Français aussi, hein, qui, sans attendre, prennent quelques précautions.
Comme aller chez le coiffeur Isabelle avant qu'il ne soit trop tard, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, Élise Dangean.
Et oui, car pour beaucoup, pas question de revivre un confinement avec les cheveux trop longs ou les racines trop apparentes. Un souvenir qui a, semble-t-il, marqué Danielle, cliente du salon Franck Provost dans le 8e arrondissement de Paris.
J'ai été prise de court, comme tout le monde, et donc je suis restée avec 2 cm ou 3 de racines.
Voilà, donc pour éviter le pire, chacun a pris ses dispositions, souvent un petit peu dans l'urgence.
Quand j'ai entendu qu'on allait retenir que les commerces essentiels, je me suis dit qu'il y avait une menace. Et donc, j'ai tout de suite appelé ce matin. Voilà.
Au pied levé, j'ai regardé sur Internet et j'avais rendez-vous une heure après.
Résultat, les réservations du salon ont doublé par rapport à mercredi dernier. Et ces 25 coiffeurs sont complètement débordés, raconte Romain, leur manager.
On a commencé déjà hier, même si c'est les vacances scolaires, on avait quand même une fréquentation un peu plus importante. Et ce matin, l'ouverture, c'était la folie. On a eu énormément de monde. Là, on a des plannings qui sont remplis jusqu'à la fin de semaine.
Même tendance dans les autres salons. Et sur Internet, la plateforme de réservation Treatwell, spécialisée dans la beauté, a connu hier pour les soins capillaires sa deuxième journée record de l'année. La première, eh bien, c'était le 11 mai dernier, à l'occasion du déconfinement.
Merci Élise Dangean. Alors moi, je n'y ai pas du tout pensé au coiffeur. C'est embêtant ça.
Moi non plus, mais c'est pas grave parce que moi je fais de la radio. Un mot encore pour vous dire, Julien, que l'Allemagne va fermer à partir de lundi et pour un mois, tous ses restaurants, ses institutions sportives et culturelles, dans le cadre donc, elles aussi, de nouvelles restrictions très strictes, des mesures qui vont concerner tout le pays.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite de votre journal 18h11, on parle à présent du reste de l'actualité et on se retrouvera tout à l'heure pour la suite de notre édition spéciale avec ces images qui avaient tourné en boucle, on s'en souvient, sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télé. C'est en janvier 2019, les portes du ministère de Benjamin Griveaux, il était alors porte-parole du gouvernement, avaient été défoncées par un chariot élévateur en marge d'une manifestation de gilets jaunes.
Oui, les auteurs de ces dégradations étaient jugés aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris, Justin Morin.
Oui, la cour a passé l'après-midi à éplucher une bonne vingtaine de vidéos pour reconstituer le trajet fou du chariot élévateur et pour voir concrètement qui a fait quoi parmi les 5 prévenus. Le conducteur Romain, costume élégant, fort accent du Nord, assume et regrette. J'étais alcoolisé, je manipule ce type d'engin tous les jours, c'est l'euphorie générale, voilà, je me retrouve à faire ça. Il jure ne pas savoir qu'il s'agissait d'un ministère. Thomas est à côté du chariot au moment des faits, il rigole en revoyant les images. J'ai suivi, c'est l'effet de foule. La présidente, c'est la grande question de ce dossier, l'effet de foule, monsieur, vous êtes un un adulte responsable. Vous n'étiez pas obligé de faire comme les autres. Réponse, je n'ai ni dégradé, ni volé. Il se rassoit, son avocat lui conseille discrètement d'arrêter de sourire. Sylvie, la plus âgée, 48 ans, a tout filmé avec un certain enthousiasme. Elle semble la plus touchée par l'audience. Quand je réécoute, dit-elle la tête basse, je trouve ça ridicule, vraiment ridicule. Mais questionnée sur la raison de leur présence dans cette manifestation-là, rien n'a changé. Thomas est au bord des larmes lorsqu'il confie vivre avec sa mère et son fils et qu'à la fin du mois, il n'y a plus rien à manger dans le frigo. Dans le public, pas de Benjamin Griveaux, mais une quinzaine de gilets jaunes venus en soutien. Au final, dit Sylvie, défaitiste, cette solidarité, c'est la seule chose qui nous reste du mouvement.
Justin Morin en direct du Palais de Justice de Paris pour Europe 1.
Dans les Ardennes maintenant, les enquêteurs comptent sur l'aide de Monique Olivier pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin.
Que le tueur en série, Michel Fourniret, a, vous le savez, reconnu avoir tué en 2003. Ce dernier, pour l'instant, ne donne que peu d'indications, mais l'avocat de Monique Olivier se dit confiant.
Une nouvelle enseigne, encore une, de prêt-à-porter, victime de la crise.
Oui, Célio prévoit à son tour la fermeture de 102 magasins en France et la suppression de 383 postes. Ce sont des Vauriens qui ciblent les valeurs de l'islam. Réaction du président turc aujourd'hui après la publication du nouveau Charlie Hebdo, le journal satirique qui met en scène Recep Tayyip Erdogan en sous-vêtements, canette de bière à la main, en train de soulever la robe d'une femme voilée.
Une représentation peu flatteuse du dirigeant turc qui a suscité l'ire du gouvernement qui dénonce un racisme culturel et promet de prendre des mesures judiciaires et diplomatiques.
Alors que de son côté, la France va plaîder en faveur de sanctions au niveau européen contre la Turquie, déclaration aujourd'hui du secrétaire d'État aux affaires européennes après les insultes d'Erdogan contre Emmanuel Macron. Et c'est dans ce contexte que le PSG affronte tout à l'heure en Ligue des Champions le Başakşehir à Istanbul, qui n'est autre que le club de cœur du président Erdogan.
Le coup d'envoi est à 18h55 et on vous retrouve sur place, Jean-Sébastien Soldaini. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Dans quel état d'esprit les supporters turcs abordent-ils cette rencontre ?
Eh bien, ces quelques supporters venus sur le parvis abordent cette rencontre avec beaucoup de respect pour le PSG, de la fierté même pour Fatih.
On joue face à une des plus grandes équipes d'Europe. C'est incroyable de voir ce que ce club a fait en 10 ans. Et leurs plus grandes stars sont là, dans notre quartier. C'est dingue.
Le dispositif de sécurité qui entoure cette rencontre est si important qu'il y a plus de policiers que de fans de foot autour de moi. La polémique Macron-Erdogan et les caricatures sont laissées de côté à les écouter. En fait, c'est une frustration qui prend le dessus.
Il y a des grandes stars comme Mbappé et Neymar qui vont jouer juste là. Mais je vais rater ça. Je suis hyper déçu. Ce n'est pas tous les jours qu'une grande équipe comme ça vient ici.
Ses supporters l'assurent. Ce match ne sera pas la caisse de résonance des dissensions franco-turques, avec ce détail qui a son importance. Le Qatar, propriétaire du PSG, est aussi le grand allié de la Turquie.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 à Istanbul. Coup d'envoi dans une trentaine de minutes. L'autre match de la soirée également en Ligue des Champions, c'est Rennes qui se déplace chez les Espagnols de Séville à partir de 21h.
Et puis la disparition d'un amoureux des mots, le linguiste Alain Rey, dont le nom reste attaché à celui des dictionnaires Le Robert, est mort aujourd'hui, on l'a appris aujourd'hui, on lui rendra hommage tout à l'heure dans le journal de 19h. Merci Isabelle, on vous retrouve pour le rappel des titres et pour le grand journal, donc à 19h. La météo avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce de la prudence dans le nord, c'est cela ?
Oui, parce que depuis ce matin, le département du Pas-de-Calais est placé en vigilance orange pour forte pluie. Ça continue encore ce soir et cette nuit, donc soyez prudents si vous nous écoutez dans le Pas-de-Calais. Pour demain, eh bien sachez que la journée sera bien différente entre le nord et le sud. Très ensoleillé dans le sud, une journée printanière, beaucoup plus nuageux dans le nord. Les températures aussi vont suivre cette tendance avec 7 à 13 degrés demain matin, 12 à 16 dans l'après-midi sur la moitié nord et 17 à 22 dans la moitié sud.
Merci Anissa, à tout à l'heure. Europe 1.